matinale. Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Bah, les masques dans la cour de récré pour les écoliers et les attestations sur l'honneur d'autotest pour les parents. Des changements grâce à la décrue de la vague Omicron. Les élèves des écoles élémentaires de la zone B, de retour de vacances, retrouvent un protocole sanitaire allégé. La crise ukrainienne, Emmanuel Macron à la manœuvre, le président français obtient l'accord de Joe Biden et de Vladimir Poutine pour un sommet avec les deux hommes, mais sur le terrain, Kiev, la capitale, veut se préparer à une éventuelle invasion russe. Et puis le premier tour de la présidentielle, c'est dans 48 jours. Nous avons voulu savoir quel style de président voulaient les Français. C'est un sondage Ipsos, Sopra, Steria pour France Inter.
Et au micro d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes et à 7h50, pour parler de la crise ukrainienne, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale sera avec nous, Jean-Louis Bourlange.
France Inter.
Fini les vacances d'hiver pour les élèves et les professeurs de la zone B et avec cette rentrée, un nouveau protocole sanitaire.
Le protocole est en effet repassé au niveau 2 dans les écoles primaires. Il était déjà à ce niveau 2 pour les collèges et les lycées. Alors, avec ce 53e protocole, quels sont les changements à partir d'aujourd'hui? Sonia Princé a posé la question au directeur d'une école du centre-ville de Toulon, dans le Var. Il attend ce matin le retour de ses 227 élèves.
Il va d'abord revoir les sourires sur les visages de ses élèves dans la cour de récré. Plus de masques en extérieur et un début de sérénité retrouvé pour Éric Briquet-Campin, directeur d'école à Toulon. Il est
soulagé par rapport à ce qu'on a pu connaître sur la période du mois de janvier en particulier, où le nombre de cas a été fulgurant. Habituellement, on se situe, on va dire, autour de 4 à 5% d'absence par mois, selon les classes. Là, sur le mois de janvier, par exemple, on est à 18% d'absence de moyenne sur la totalité de l'école. Donc, c'est très compliqué pour avancer dans ce qu'on appelle les programmes.
La vie de l'école devrait être plus simple. Les élèves pourront se mélanger par niveau et non plus seulement par classe. Les CP avec les CP, les CE1 avec les CE1, à la cantine, par exemple. Mais ce directeur apprécie surtout la fin de l'attestation sur l'honneur que les parents devaient signer pour dire qu'ils avaient bien réalisé les tests.
Ah oui. Tout à fait. C'était quelque chose qui était très compliqué à gérer. Les semaines précédant les vacances, je crois qu'il n'y a pas eu une matinée sans que j'ai passé peut-être, je ne saurais vous dire combien de coups de téléphone à des familles d'élèves qui arrivaient sans leur attestation. C'était quelque chose de très, 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 très lourd à gérer.
Il a prévenu les parents ce week-end de par mail des nouvelles règles de ce protocole, avec le passage à un seul test pour les cas contacts à partir de la semaine prochaine.
Sonia Princé, et pour ces petits Strasbourgeois dont c'est le retour à l'école ce matin, bien ne plus porter le masque à la récré, c'est le bonheur.
Je suis trop contente parce que avant, j'arrivais pas trop à respirer en courant comme je suis asthmatique.
On était étouffés en même temps avec le masque et ça nous embêtait.
Il faut le garder à l'intérieur, mais ça me gêne pas trop.
J'attends qu'on n'ait plus du tout obligé de mettre le masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais c'est déjà bien l'extérieur.
Parole d'enfant recueillie par Jules Hoss de France Bleu Alsace. L'Australie, surnommée la forteresse, rouvre ses portes à tous les touristes vaccinés après 2 années de fermeture liée au Covid. Le premier vol international vers l'aéroport de Sydney a atterri de Los Angeles ce lundi. Pendant 2 ans, les Australiens n'ont pas été autorisés à sortir de leur pays. Des restrictions qui ont séparé des familles, mis à mal le secteur du tourisme. La fermeture des frontières a coûté chaque mois à l'Australie presque 2,5 milliards d'euros.
La crise ukrainienne et cette avancée diplomatique obtenu par Emmanuel Macron.
Tard hier soir, le président français a réussi à décrocher l'accord de principe de Joe Biden et de Vladimir Poutine pour un sommet sur la crise ukrainienne. Une annonce surprise alors que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien et qu'à Kiev, la capitale ukrainienne, on multiplie les entraînements aussi bien dans le maniement des armes qu'en médecine de guerre. C'est le reportage dans les faubourgs de Kiev de notre envoyé spécial Éric Bigala.
L'exercice est simple pour ces apprentis infirmiers et infirmières en médecine de guerre. C'est un exercice de triage. Ils vont devoir définir en quelques dizaines de secondes le sérieux des blessures de 4 personnes, qui doit être traité et qui est sans espoir. Les 15 infirmiers ou simples volontaires qui se succèdent posent des autocollants de couleur sur les corps au milieu des cris et des blessés qui s'accrochent à eux. Parmi la dizaine de stagiaires, certains n'ont aucune expérience. D'autres, comme Julia, 35 ans, sont des vétérans.
Je mets à jour mes connaissances médicales, en fait. J'étais sur le front à Troïske en 2014. Ma fille est même née là-bas. Et aujourd'hui, comme la guerre revient à nos portes, il faut que je mette à jour mes connaissances.
C'est David Plaster, ancien médecin militaire américain, vétéran de plusieurs théâtres d'opérations, qui dirige ses stages avec son association Anomalie.
J'enseigne la médecine militaire. Avec mon équipe, on fait ça pratiquement dans tout le pays. Et on est actif depuis les tout débuts de la guerre. On a été parmi les premiers étrangers sur le front pour apporter aide médicale et formation.
Manifestement, tous les Américains n'ont pas suivi l'injonction de leur ambassade de quitter le pays. David Plaster se dit même prêt à retourner au combat, aux côtés des Ukrainiens cette fois.
Éric Biegala, reportage dans les faubourgs de Kiev en Ukraine. Les pelleteuses au travail en République dominicaine. La construction d'un mur a démarré hier le long de la frontière avec Haïti. C'était une promesse de campagne du président dominicain qui espère, avec cette barrière de béton de 164 km de long, contrôler l'immigration clandestine, le trafic d'armes et de drogue.
En France, le premier tour de la présidentielle dans 48 jours. France Inter a voulu savoir de quel style de président les Français avaient envie pour le prochain quinquennat.
C'est une enquête de l'Institut Ipsos Soprasteria pour France Inter. Alors, quel leadership pour la France? Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour.
Qualité, compétence, charisme, savoir-être, que veulent les Français et quelle personnalité politique se rapproche le plus de ce portrait robot?
Oui, il y a d'abord les qualités attendues. Et beaucoup plus que l'exécution fidèle d'un programme de campagne, les Français sondés veulent d'abord, à 58%, de l'écoute et de la proximité, critères qui ont fait défaut lors du mouvement des Gilets jaunes. Mais ils veulent aussi un chef pour affronter les tempêtes. Critère numéro 2, 46% veulent un président qui sache gérer les crises. Ce qui donne un avantage très net à Emmanuel Macron. Logique, il est le sortant et on se tourne vers lui en cas de problème. A-t-il les qualités que vous attendez chez un président? C'est oui à 51%, ce qui le met nettement devant Marine Le Pen, deuxième à 33%, et Éric Zemmour, cinquième à 23%. Valérie Pécresse, qui représente pourtant la droite de gouvernement, n'incarne pas suffisamment la fonction, troisième à 30%, juste devant Jean-Luc Mélenchon, qui domine largement à gauche. Yannick Jadot, Christiane Taubira ou Anne Hidalgo ont-ils les qualités requises? C'est non, répondent les sondés, à plus de 80%.
Et Yael, au-delà du leadership et du type de président, il y a la question des institutions. La Ve République donne-t-elle pleinement satisfaction?
Alors oui et non. Oui, parce que 71% des sondés se disent attachés à la Ve République. Les plus enthousiastes sont les sympathisants LR et En Marche. Les plus critiques, on les trouve au RN. Mais l'envie de changement est très nette également. Seulement 12% des Français interrogés estiment que les institutions fonctionnent bien. Mais de là à tout changer radicalement, c'est non. Pas de grand soir. Il s'agit de les faire évoluer, notamment en donnant plus de pouvoir au Parlement. Avis partagé par 3/4 des sondés. Entre la demande de 6e République des Insoumis et la réforme des institutions abandonnée par Emmanuel Macron, il y a de quoi nourrir la campagne et le prochain mandat.
Merci Yaël Gauze. C'est un sondage, rappelons-le, réalisé par Internet les 16 et 17 février auprès de 976 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus. Fabien Roussel a-t-il vraiment travaillé comme assistant parlementaire d'un député communiste du Nord entre 2009 et 2014? Selon Mediapart, aucune preuve de ce travail n'a pu être fourni ou retrouvé. On en reparle dans le journal de 8h.
La suite du procès de l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Quel rôle ont joué les accusés dans l'attentat du 26 juillet 2016? Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Les deux terroristes sont morts. Ce sont donc des membres de leur entourage qui comparaissent depuis 8 jours. La cour d'assises spéciale va se pencher cette semaine sur l'éventuel lien de ces hommes avec l'idéologie djihadiste. Un procès suivi de près par les proches de la victime et par l'archevêque de Rouen, également parti civil, déjà en poste au moment de l'attentat. Dominique Lebrun espère comprendre l'intérêt des thèses de Daesh aux yeux de certains jeunes, Ariane Grissel.
Dominique Lebrun ne cachait pas son émotion la semaine dernière pendant sa déposition. Croix autour du cou et ses éternelles sandales aux pieds, l'archevêque s'est interrogé. Comment un croyant peut-il penser que Dieu sera content si je tue en son nom? De cette deuxième semaine, il dit espérer des lumières.
Les réflexions sur l'islam de comptoir, de café, ça suffit pas, quoi. Les réflexions sur l'islam, j'ai envie de dire, dans le contexte d'une élection présidentielle, c'est pas suffisant. Il y a certainement à creuser, à travailler, et bien sûr, parallèlement, à aimer. La justice fait son travail en apportant cette contribution de façon à permettre de juger avec le plus d'éléments ce que les accusés qui sont dans le box ont fait réellement.
L'archevêque se dit un peu perdu face aux questions soulevées par ces attaques djihadistes.
On voit bien qu'il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre du macro, de la géopolitique, de la réflexion, de la théologie, comme on l'a entendu. Et puis, il y a des choses qui sont de l'intime de l'homme, de cet homme qui sera toujours tenté par le mal. Il n'y a pas de solution programmable à ces questions immenses que sont celles de l'injustice, de la pauvreté, de la cohabitation, de religions qui n'ont pas forcément le même projet de société en tout.
Devant la cour d'assises, l'archevêque a expliqué prier pour les trois hommes dans le box. Puis Dominique Lebrun, fils de magistrat, a demandé au président que justice soit rendue pour les accusés, les victimes et la société.
Ariane Grissel. Les Jeux Olympiques de Pékin se sont refermés. La flamme est éteinte depuis hier. Les athlètes tricolores rentrent en France avec 14 médailles, soit une de moins qu'à Sochi en 2014 et Pyeongchang il y a 4 ans. Mais les Français rentrent aussi avec de belles promesses. Des jeunes, Xavier Monferrand, dont on reparlera au prochain JO de 2026 en Italie.
Aux Jeux Olympiques, l'essentiel n'est pas seulement de participer, c'est aussi de s'élancer, découvrir et se revoir dans 4 ans. C'est le cas de Margot Bock. À 22 ans, elle est devenue la première femme française aux commandes d'un bobsleigh. Et en 2026, elle pilotera pour aller décrocher autre chose qu'une place d'honneur. Pareil pour Joséphine Panier, 19 ans, aux portes du top 10 en saut à ski. Et pour Mathéo Beau, 19 ans lui aussi, vice-champion du monde junior de combiné nordique, le gamin de Pontarlier pourrait bien être un jour l'héritier de Jason Lamy Chapuis. À Pékin, il a pris ses marques.
C'est de la confiance et d'expérience emmagasinée qui va me servir déjà pour cette saison, mais pour toute ma carrière, et c'est des expériences inoubliables qu'on garde en mémoire et on va construire là-dessus. C'est que du bonheur pour moi.
Il y a aussi ceux qui ont confirmé malgré leur jeune âge. C'est le cas de Tess Ledeux, 20 ans, découverte en 2018 à Pyeongchang, médaillée d'argent ici à Pékin et qui n'a pas fini d'écrire son histoire avec les JO. Et puisque l'avenir n'est pas qu'une question d'âge, dans 4 ans, le quintuple médaillé de ces Jeux, Quentin Fillon-Maillet, sera sans doute là, en Italie. Après tout, il n'a même pas encore 30 ans. Zhang Jiakou, Xavier Monferrand, France Inter.
Du côté du ciel, Franklin, la nouvelle tempête a soufflé des rafales de vent de 171 km à l'heure au Cap Brinet dans le Pas-de-Calais. En Normandie, les vents les plus forts ont été enregistrés à Fécamp, 141 km à l'heure. Et à La Réunion, le préfet annonce la levée de l'alerte rouge cyclonique.
Merci à vous, Laurence Thomas. L'édito politique assure.